Bonsoir Marie Sorbier, et ce soir vous vous intéressez à une question qui agite régulièrement et beaucoup le monde culturel.
Oui Arnaud, c'est un grand sujet de débat, voire de polémique, qui revient très régulièrement sur le terrain médiatique. Savoir s'il faut distinguer l'homme de son œuvre provoque des positions très tranchées et les mots pour les défendre sont souvent acerbes. Chaque camp semble durcir ses lignes, tant et si bien que les arguments avancés se caricaturent, appauvrissent leur complexité dans le but de faire mouche, de se rendre immédiatement efficace. C'est justement pour ajouter de l'épaisseur à cette question, plus complexe qu'elle ne semble, que Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'engagement des intellectuels, vient de faire paraître au Seuil un court essai intitulé sobrement « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?». Elle raconte des affaires anciennes, notamment des procès d'écrivains, et revient surtout sur les affaires récentes, Polanski, Maznev, Handke, Weidegger, pour en éclairer les enjeux. Alors, faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle des auteurs ? Une œuvre peut-elle être tenue pour suspecte quand son auteur ne l'est pas ? Et si on choisit d'éviter la censure, peut-on aller jusqu'à les récompenser ? Gisèle Sapiro expose dans cet essai des arguments qui permettent à chacun de se construire une opinion étayée en mettant en perspective, historique, philosophique ou sociologique, la question du rapport entre la morale de l'artiste et celle de l'œuvre. Alors, un exemple concret, fallait-il republier en 2015 le livre de Lucien Rebatté, Décombres, best-seller sous l'occupation, roman fasciste et antisémite ? L'auteur exhibait après-guerre, lui, pour sa défense, le côté purement littéraire de son travail. On l'écoute en 1969 dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel.
Vous êtes l'auteur de deux livres, très importants, les Décombres, les deux étendards. Je vais parler des Décombres, où vous faites la preuve d'un pamphlétaire. Vous êtes souvent excessif, souvent horrible, souvent juste. Et je m'explique, Lucien Rebatté. Pourquoi excessif ? Parce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre propre révolution à un moment donné, dans un contexte précis, et que malgré vous, vous vous êtes peut-être perdu, ou vous en avez perdu quelques-uns. Vous me direz si je me trompe après. Pourquoi horrible ? Parce que vous présentez une certaine mécanique du fascisme militant et qu'à vous lire, on comprend mieux quand on vous est suivi, ce qui est grave. Pourquoi juste ? Parce que, polémiste redoutable, vous avez dénoncé les vices de la France d'avant-guerre. Est-ce que vous êtes d'accord sur tout cela ? Est-ce que vous vous rendez compte que vous aviez une importance et que vous avez pu faire des choses qui sont graves et dramatiques ?
Je me rends très bien compte de l'importance. J'ai toujours protester contre les écrivains, contre la thèse des opinions politiques que les écrivains peuvent défendre dans leurs livres sans les engager en quelque sorte.
Ce que l'on comprend surtout à la lecture de cet essai, comme dans la présentation de Chancel que l'on vient d'entendre, c'est qu'il ne peut y avoir de réponse univoque, car ce que l'on met rapidement parfois dans le même sac relève en réalité de problématiques bien distinctes, ne serait-ce que selon l'époque à laquelle l'artiste vivait. Alors ainsi, Paul Gauguin pouvait-il en toute bonne conscience faire de ses modèles tahitiens ses maîtresses, car pour l'époque, il n'avait rien d'un délinquant. Alors que le cas de Louis-Ferdinand Céline est différent, car ses pamphlets tombent sous le coup de la loi, sanctionnant l'appel à la haine raciale. Il n'y a donc aucune incohérence à les interdire, quel que soit par ailleurs le mérite artistique de ses œuvres romanesques. Peut-être plus important encore, de ne pas confondre le contenu d'une œuvre du comportement de leurs auteurs. L'affaire Gabriel Maznev n'a en ce sens rien à voir avec les affaires Polanski ou Woody Allen, où ce qui suscite l'indignation n'est pas l'œuvre, mais les agissements que l'on reproche à leurs auteurs.
Dans la catégorie... Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre, et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre, et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades, surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher.
Bien.
Mais il faut, c'était un metteur en scène génial par ailleurs.
Ouais.
C'était...
D'accord.
Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste.
Donc on est là pour remettre.
Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire. On ne veut pas. Hein.
Peut-on débattre de cette question ? En considérant le domaine de l'art comme une exception, une enclave sacralisée, et des œuvres comme des objets exemples de porosité. Blanche Gardin, que l'on vient d'entendre, remet en question ce statut singulier de l'artiste devant le parterre de stars de la cérémonie des Molières en 2019.
Oui, mais Marie, après avoir exposé donc toutes ces différences, toute la complexité de cette question, est-ce que Gisèle Sapiro livre au lecteur son point de vue ?
Eh bien, un avis mesuré, Arnaud, sans remettre en cause la distinction entre représentation et apologie, qui protège à juste titre la fiction de poursuite en justice, ni sans condamner le droit à l'ambiguïté qui a produit quand même des chefs-d'œuvre, il revient donc, selon Gisèle Sapiro, aux intermédiaires culturels ou à la critique de distinguer les œuvres dotées d'une valeur esthétique. Quant au public, lui, il reste souverain dans ses choix. Mais pour conclure, j'emprunte les mots d'une autre sociologue, Nathalie Hennick. L'œuvre enfreint-elle une loi ? Il est juste d'en empêcher ou d'en sanctionner la diffusion. Enfreint-elle la morale ? Alors la sanction ne devrait relever que du choix libre du lecteur, qui choisira de consommer ou pas ce qui heurte ses convictions. Est-ce l'auteur qui a enfreint une loi ? Alors c'est à la justice de sanctionner, et si elle l'a déjà fait, rien n'autorise quiconque à entraver la diffusion de l'œuvre. Tout au plus peut-on s'abstenir de la cautionner.
Merci Marie Sorbier pour votre contribution à ce débat qui n'est pas prêt de retomber.